Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer, ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants. C'est sur Beurre FM, après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Le mot que j'aborde avec vous ce matin a souvent partie liée avec notre environnement, l'entreprise, le loisir, le sport. Discrimination au travail, à l'embauche, à l'emploi, discrimination raciale, aux faciès, discrimination anti-gros, anti-vieux, bref, les discriminations se ramassent à l'appel et on a le sentiment que plus on en parle, plus on en découvre de nouvelles. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du mot discrimination. Mais la discrimination, c'est quoi ? Le mot « discriminer » vient du latin « discrimino » qui signifie « juger, trier, mettre à part, séparer, diviser ». C'est à l'origine établir une séparation afin de différencier des éléments, des objets. Le mot « discrimination » s'impose tardivement dans le langage courant en prenant un caractère péjoratif. Le tri s'adresse alors à l'humain et les notions de hiérarchie et d'inégalité entrent en scène. C'est avec le concept de discrimination sociale, au début de la seconde moitié du XXe siècle, que le mot s'impose. Il s'inscrit dans la lignée des luttes politiques pour l'égalité de droits entre les hommes. En France, la lutte contre les discriminations a d'abord été confondue avec la lutte contre le racisme. En juillet 1972, une loi sanctionne certains comportements motivés par l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée. L'incrimination pénale de la discrimination s'étend ensuite aux discriminations à raison du sexe ou de la situation de famille en 1975, puis à raison des mœurs en 1985, du handicap et de l'état de santé en 1989 et 1990. Et puis, sous l'impulsion du droit européen, la lutte contre les discriminations connaîtra dans les années 2000 une nouvelle avancée. Aujourd'hui, la loi a défini plus de 25 critères de discrimination comme l'origine, le sexe, le patronyme, mais aussi l'état de santé, l'âge, les activités syndicales ou encore le lieu de résidence. Ce qui fait une discrimination, c'est ce qui enfreint le principe d'égalité entre les citoyens. Il ne faut pas hésiter à s'en emparer. Il existe un numéro, le 3928, où un interlocuteur lié au défenseur des droits apporte conseil et information. Et donc, ce mot « discrimination », nous allons en débattre avec, pour inviter, Maître Slim Benachour, qui est avocat au barreau de Paris et qui s'est illustré dans des litiges relevant de la discrimination, des contrôles aux faciès devant la Cour de cassation, en passant par les chibanis marocains, anciens cheminots des années 70. Bonjour Maître Benachour.
Bonjour.
Ça fait 25 ans que vous exercez le métier d'avocat. Et pour ceux qui vous connaissent pas, une question, comment en êtes-vous venu à être l'avocat de la lutte contre les discriminations, hasard d'une plaidoirie, d'une affaire remportée ou d'une réflexion de fond?
Bon, d'abord, j'espère ne pas être le seul. Non, c'est une considération importante qui m'a toujours animé depuis tout jeune avec mes amis à l'école.
Oui.
Et donc ça n'est pas lié à une affaire en particulier. En revanche, vous avez raison, la profession d'avocat m'a permis de m'exprimer sur ces points, de représenter des personnes, de leur donner la parole et de traduire tout ça d'un point de vue juridique. Et j'ai connu une, un saut qualitatif d'un point de vue juridique aux alentours des années 2000. Le droit de l'Union européenne a considérablement influencé le droit français. Et ça a commencé avec des dossiers concernant les femmes de ménage étrangères. Et puis, de façon plus... probablement répondant à la demande sociale, de façon plus... plus fréquente, plus massive, après les révoltes de 2005, après la mort de Ziad Ebouna.
Et il y a une affaire qui vous a particulièrement marqué dans votre défense ?
En réalité, elle me marque toutes. La discrimination, vous savez, ça répond à des critères posés par la loi, et donc qu'il s'agisse de dossiers de discrimination sexuelle, de discrimination raciale, de discrimination syndicale. Elle vous marque toutes parce que elle touche au cœur de l'humanité, de la dignité, de l'égalité. Et ce sont des éléments essentiels dans une démocratie et dans un état de droit. Donc elles m'ont toutes marqué, mais il y en a une qui est assez...
emblématique.
D'actualité, oui, c'est les contrôles aux faciès. Mmh. Ce d'autant plus qu'il s'agit d'un fait social qui est très partagé en France par les personnes qu'on peut considérer directement affectées des minorités, mais pas seulement. Hein, ces personnes qui sont contrôlées constamment, elles ont des copains, des copines, des collègues. Et puis n'oublions pas, pour ceux qui ne sont pas touchés par les contrôles d'identité systématiques, systémiques, eh bien c'est un fait qui nous concerne tous, parce qu'encore une fois, il touche à la dignité de tous, et on ne peut pas considérer que quelqu'un qui n'a rien fait et qui est toujours suspecté, eh bien ça ne nous concerne pas. Donc oui, les contrôles aux faciès, et d'ailleurs, tout dernièrement, nous avons... engager une action de groupe contre l'État, non plus pour nous plaindre et demander des sous, mais pour imposer à l'État une réforme des contrôles d'identité. Donc c'est l'affaire la plus d'actualité pour moi et pour d'autres.
Vous compreniez ce que François Dubé voulait dire lorsqu'il déclarait que le thème des discriminations monte comme un sentiment d'injustice dominant au fur et à mesure qu'en réalité l'égalité progresse.
Oui, alors c'est vrai que ce paradoxe, on le comprend parce que, ou je le comprends parce que, il est vrai que la demande d'égalité, elle est précédée de la conscience de l'atteinte à la dignité, l'atteinte à l'égalité. Donc effectivement, quand on n'est pas conscient d'être discriminé, quand on n'est pas conscient d'un problème de dignité et d'égalité, quand on est... enclavé, isolé, et que l'horizon n'est pas très ouvert, on peut effectivement considérer qu'on n'a pas de problème. Mais il y a aussi une autre dimension au problème, c'est la renonciation. C'est-à-dire que on peut avoir conscience d'être traité défavorablement et de ne pas vouloir contester. Et c'est vrai que cette question, elle est particulièrement d'actualité, parce que la demande de dignité, d'égalité, de non-discrimination est très très forte en ce moment.
Oui. Alors, comment peut-on encourager les personnes victimes de discrimination à se faire aider ? Et puis d'abord, à leur rappeler que la loi est de leur côté, la loi républicaine est de leur côté. Il y a 25 critères aujourd'hui de discrimination possible. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens qui aujourd'hui se sentent victimes de discrimination ?
D'abord, je les entends, je les écoute. Vous avez raison, le droit est de leur côté. Mais il y a des normes sociales qui ne sont pas juridiques, qui agissent et qui très souvent impressionnent les gens, les personnes discriminées, et qui les convainquent de ne rien faire. Donc je leur dirais tout d'abord... de considérer qu'elles ne sont pas seules, hein, parce que la discrimination, même si elle est souvent vécue de façon intime, eh bien elle touche très souvent, vous avez fait référence aux critères, elle touche très souvent des semblables. Et ces critères de discrimination, en réalité, se répondent les uns aux autres parce que les personnes qui discriminent en général discriminent un peu dans tous les sens. Donc je dirais dans un premier temps, vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, trouver une oreille, trouver quelqu'un qui puisse vous entendre et qui puisse peut-être, à l'occasion de votre affaire, d'une part régler votre affaire, mais régler aussi par la même occasion ce problème-là qui se pose pour d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est un conseil individuel, mais en réalité la lutte contre les discriminations, ça nous concerne tous, et donc on doit être très vigilant et très attentif à la demande d'égalité, puis on doit être aussi attentif à ne pas discriminer, on doit faire très attention à sa position sociale et à ce qu'on peut représenter et à ce qu'on peut faire en direction des autres. Et puis vous avez un acteur qui est incontournable aujourd'hui, qui a gagné une légitimité très forte en un temps réduit, probablement lié à la problématique que vous abordez aujourd'hui, c'est le défenseur des droits.
Absolument. Et qui a un numéro, d'ailleurs, le 3928.
Et donc, par ses rapports, par ses observations devant les juges, s'il y a des observations devant les juges, c'est parce que vous avez des personnes qui décident de contester. Et si cette contestation ne se règle pas, soit dans l'entreprise, soit dans le logement, quel que soit le champ social, eh bien, on peut toujours saisir le juge. Et le juge, eh bien, il s'appuie très souvent sur les positions du défenseur des droits pour statuer. Voilà, donc on va souhaiter le meilleur à la nouvelle défenseur des droits qui est arrivée il y a peu de temps. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas renoncer, de préserver le statu quo, parce qu'on se dit toujours qu'il peut avoir pire. Mais il est clair que la solution, elle est dans la lutte. Et de se dire qu'on n'est pas seul.
Merci, Maître Benachour, et à bientôt.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.